Tu connais la phrase de Lao Tzu sur l'inattendu ? Aveugle, nous suivons le sentier de la vie.
Y'a pas de quoi avoir les jetons. De toute façon, on y va tous. C'est la seule chose dont on soit sûr. Le problème, c'est de savoir à quelle vitesse on y va.
Quelle bonne surprise !
Allez, viens, toi. J'ai hâte de parler.
Écoutez, mon vieux, vous auriez pu trouver plus simple.
Nous sommes donc aujourd'hui avec Vera Briand, vice-présidente du département d'Ille-et-Vienne en charge de la protection de l'enfance et qui s'occupe sur cette question-là de l'accueil des mineurs non accompagnés. Bonjour à vous.
Bonjour à vous.
Lors de sa dernière session, en avril, l'Assemblée départementale a approuvé l'engagement d'un second plan d'action relatif à l'accueil de ces mineurs non accompagnés. Donc on entend par là les jeunes étrangers âgés de moins de 18 ans qui arrivent sur notre sol. Après, la plupart du temps, un parcours mouvementé, difficile, à la recherche d'un accueil. Et vous avez la charge, donc, via la loi de protection de l'enfance, l'obligation à vous, exécutif du département, je vous cite dans votre communiqué de presse, de les prendre en charge dès lors qu'ils sont évalués mineurs. Est-ce qu'on peut d'abord savoir un petit peu quel type de profil humain ça représente, quel type de personne il peut s'agir que vous accueillez via ces dispositifs ?
Tout d'abord, ce sont des enfants. Je pense qu'il est important de bien intégrer que ce sont des enfants, donc des moins de 18 ans, à partir, quand ils rentrent dans notre dispositif. Ce ne sont pas des réfugiés, ce sont des migrants, ce ne sont pas forcément des orphelins, ils sont isolés, c'est-à-dire ils sont loin de leurs parents, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de parents, les parents sont restés au pays, et ce sont des jeunes qui arrivent chez nous ou dans d'autres pays d'Europe pour se construire une vie meilleure, pour avoir un avenir meilleur, pour avoir accès à l'éducation et à l'emploi, et souvent aussi pour aider la famille qui est restée au pays.
Vous avez des exemples, vous allez sur le terrain, les rencontrer parfois. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples comme ça de jeunes qui sont accompagnés, soit qui vous ont particulièrement touché ou des profils types qu'il y a en ce moment ?
Alors oui, je les rencontre régulièrement, mais avec quand même la réserve de ne pas rentrer dans leur histoire leur appartient. Je n'ai pas envie de faire du voyeurisme par rapport à leur histoire de vie, s'ils veulent se livrer, bien sûr ils le peuvent. Ce sont des jeunes, moi j'ai envie de dire, et mes autres collègues dans les autres départements le disent aussi, ce sont des jeunes qui ont vraiment envie de s'en sortir, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de maîtriser notre langue, qui ont envie de rentrer dans une formation professionnelle leur permettant d'exercer un métier dans lequel ils vont s'épanouir, et ce sont des jeunes qui ont envie de s'intégrer dans notre société, et aussi bien dans la scolarité, dans le monde associatif, dans les endroits où ils sont accueillis, qu'ils soient en établissement, en famille d'accueil ou dans des dispositifs comme nous les créons, et ce sont vraiment des jeunes très, très attachants, et moi ce que je retiens surtout c'est que ce sont des enfants.
Donc on pense à l'enjeu de les accueillir sur le plan du logement, mais comme vous avez pu le dire là, il y a bien d'autres enjeux, notamment d'insertion scolaire, d'insertion professionnelle. Comment ça se déroule, cet accompagnement qui doit forcément être à la carte et puis très ciblé sur ces enfants qui sont quand même particuliers ?
Alors ces jeunes, je pense qu'il est important de redire comment ça se passe avant de rentrer dans le dispositif. Donc ce sont des jeunes qui s'adressent à nous, à la mission mineurs non accompagnés. C'est une mission dédiée que nous avons au département et qui se déclare mineur. À partir de là, nous engageons tout un dispositif d'évaluation de la minorité, mais aussi de l'isolement. Il ne suffit pas juste d'être mineur, il faut aussi être isolé. Il faut les deux contraintes. Et donc dans ce cadre-là, à peu près un peu moins de 20% maximum sont réellement des mineurs, surtout ceux qui se déclarent eux spontanément mineurs. À partir du moment où cette évaluation détermine la minorité et l'isolement, ce jeune est accueilli dans un dispositif classique de la protection de l'enfance comme n'importe quel jeune brétilien, et donc dans ce cadre-là nous construisons avec lui son projet de vie, le projet pour l'enfant. Et donc ça veut dire évaluer ses besoins, évaluer ses besoins de santé, parce que parfois ils sont abîmés, hein. Comme vous l'avez dit, hein, ce ne sont pas des touristes, ils ont parfois vécu des choses difficiles. Évaluer ses besoins de santé, évaluer ses besoins d'autonomie, enfin son autonomie, sa capacité de faire face à son quotidien, et puis évaluer son apprentissage du français. Et puis son niveau scolaire, parce que ben, les niveaux scolaires, enfin, il n'y a pas d'horizontalité, donc il faut vraiment bien évaluer pour voir dans quelle insertion scolaire il peut se trouver. Et cette insertion scolaire, nous la travaillons main dans la main avec l'éducation nationale pour trouver aussi des dispositifs qui pourront les prendre en charge. Et en fonction, et bien sûr, nous tenons compte aussi de l'envie du jeune, de son orientation professionnelle éventuelle pour pouvoir le mettre dans une filière qui lui corresponde. Et en fonction de cela, se bâtit le projet de vie comme tout autre jeune.
Vous dites que le préalable, un des préalables, donc, c'est qualifier l'isolement, mais aussi qualifier qu'ils sont bien mineurs. Comment ça se déroule, ce dispositif-là ?
Alors, ce sont des travailleurs sociaux du département qui sont particuliers formés à cette évaluation, qui ont un savoir-faire reconnu au niveau national, puisqu'ils forment aussi d'autres travailleurs sociaux dans le cadre de la formation professionnelle de la fonction publique. Et donc, ils font une évaluation croisée pour en prenant appui, si c'est possible, sur les papiers que le jeune peut produire. Parfois, il ne peut pas les produire. Et donc sur une évaluation croisée de ce qu'il peut dire et de ce qu'on peut constater. Donc, et s'il y a un doute, s'il devait y avoir un doute, si le jeune, je ne sais pas, a 17 ans et demi, et peut-être qu'on pense qu'il a un peu plus de 18 ans, mais voilà, le doute bénéficie toujours aux jeunes. Donc voilà.
Certaines associations ont dénoncé, quand il y avait recours à des procédés médicaux, à des procédés pas toujours humains, notamment quand on parle de prélèvement sanguin, prélèvement osseux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous voulez vous exprimer là-dessus ?
Alors nous ne les pratiquons pas, hein. les tests osseux ne sont pas des prélèvements, hein, sont des tests osseux par radiographie. Ils peuvent être demandés par le procureur, hein, mais nous, nous sommes sur des évaluations sociales.
Il y a donc plusieurs sites qui sont concernés par cet accueil des mineurs. La caserne Guillaudeau à Rennes, mais depuis l'été dernier, Sens de Bretagne, Saint-Georges de Rintambeau notamment, qui réunissent, comme vous le dites, 36 places. Là, il va y avoir d'autres perspectives aussi. Une soixantaine vont être attribuées à Rennes, dans les pays de Brocéliande, de Redon, un petit peu partout en fait sur le territoire. Si on prend l'exemple de Saint-Georges de Rintambeau par exemple, comment ça s'est passé ? Comment ça se déroule concrètement là-bas ? Comment ça a été accueilli ?
Oui, je voudrais juste resituer dans le contexte. Aujourd'hui, fin 2018, pardon, il y avait à peu près 17 000 mineurs non accompagnés en France. Et nous, en Ille-et-Vilaine, nous étions à presque 700 mineurs non accompagnés dans notre dispositif. Donc on voit bien que sur à peu près 3300 enfants confiés. Donc on voit bien que là il faut trouver des réponses. Donc dès 2017 c'était l'année vraiment charnière, donc nous avons ouvert le site de Guillaudeau où il y a 100 jeunes, et 2018 ce n'était pas suffisant, donc nous avons ouvert Sens de Bretagne avec 24 places et Saint-Georges de Rintambeau avec 12 places. Donc ce sont des jeunes donc, qui après l'évaluation, donc projet de vie et projet de scolarité, hein, en proximité de ces lieux de résidence. Et c'est, donc, il y en a 12 à Saint-Georges de Rintambeau et 24 à Sens de Bretagne. Et donc il y a une association qui est gestionnaire, enfin qui est prestataire de services, hein, suite à un appel d'offres, l'Armée du Salut en l'occurrence, sur les deux sites, donc qui accompagne les jeunes au quotidien. Donc le quotidien de ces jeunes, c'est le quotidien tout à fait ordinaire de tout jeune, l'école, autant que possible, hein. Donc on fait tout pour qu'ils soient inscrits à l'école, des activités sportives, culturelles dans le monde associatif local, et puis le quotidien, l'organisation des repas et de la vie courante. Alors ces sites, nous, Sens de Bretagne, c'était une gendarmerie, donc des locaux qui nous appartenaient. Et Saint-Georges de Rintambeau, nous avons contractualisé avec un IME qui avait des locaux disponibles. Donc, ayant pris connaissance de cette disponibilité, nous avons contacté bien sûr la maire de Saint-Georges de Rintambeau, le maire de Sens de Bretagne également, et nous lui avons fait part de notre volonté de ce projet. projet dans leur commune. Et tout au long, bien sûr, ils ne se sont pas opposés et nous les avons accompagnés aussi pour porter ce projet auprès de leur population, parce qu'il me semble important qu'il y ait de la pédagogie pour expliquer qui sont ces jeunes, ce qu'ils vont faire, pour qu'on évite de faire des amalgames parfois injustes, parfois malsains même, sur le profil de ces jeunes et sur ce que ces jeunes pourraient faire et les opposer surtout aux jeunes brétiliens.
Là, on parle d'implantation de sites qui ont fonctionné. Est-ce qu'il y a parfois, de la part des édiles, une certaine frilosité à accueillir ces jeunes ?
Aujourd'hui, je n'en ai pas rencontré. Des questions, oui, qui sont tout à fait légitimes, parce que tant qu'on ne les a pas rencontrés, tant qu'on n'a pas rencontré les MNA, on ne sait pas forcément ce que c'est. Effectivement, oui, des questions sur l'organisation du quotidien de ces jeunes, sur les garanties de fonctionnement aussi. Je pense que n'importe quel établissement de 12 ou 24 jeunes comme ça qui s'installe dans une commune, en plus une petite commune, bon, ça peut porter questionnement sur ce que font ces jeunes quand ils sont libres, quand ils ne sont pas en moment scolaire. Donc ces questions, il faut pouvoir y répondre. Et je pense que sur les deux sites qui sont en fonctionnement et sur le gros site, parce qu'à Guillaudot, il y a 100 jeunes en plein centre de Rennes, 100 garçons. Sans MNA, il faut juste expliquer, ça se passe bien avec l'environnement immédiat.
Non, ça va. Donc dans cette dernière session, vous vous êtes engagé à créer des places supplémentaires. D'ici fin 2019, l'objectif sera atteint, j'imagine. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez. On sera à combien de jeunes accueillis ?
Je ne peux pas vous dire exactement combien de jeunes seront accueillis dans ces nouveaux dispositifs, parce que bon, il y a plein de contraintes. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons 700 jeunes MNA dans le dispositif de la protection de l'enfance. Donc, il faut créer des places. Il faut créer des places pour des profils différents. Il faut créer des places pour des jeunes. Nous avons déjà créé des places pour des jeunes plus fragiles que d'autres, chez des assistants familiaux qui se sont déclarés plus disponibles pour accueillir des jeunes MNA. Nous avons créé des places et nous sommes en train de créer des places pour des jeunes plus autonomes qui sont dans des appartements. Ils seront en colocation, mais toujours accompagnés par un gestionnaire, un prestataire, hein, de la protection de l'enfance. Et puis il y a des sites plus collectifs, comme le site de Aider, hein, qui va certainement se faire très rapidement, où là ils vivront en collectivité jusqu'à acquérir une autonomie certaine qui leur permettra de basculer vers un appartement. Notre objectif étant aussi de les préparer le mieux possible à cette autonomie qui va arriver très vite. Donc la moyenne d'âge c'est 16 ans et demi quand ils arrivent, la majorité est à 18 ans. Alors nous sommes un département qui ne fait pas des sorties sèches à eux. On en parle beaucoup au niveau national, pas de sorties sèches à eux. Nous avons en Ille-et-Vilaine 444 contrats jeunes majeurs, dont 182 pour des MNA. Donc nous les accompagnons jusqu'à 21 ans. Mais à 21 ans, ça va être le grand saut. Donc, il faut qu'ils soient préparés, ces jeunes. Donc, c'est pour ça que nous mettons en place différents dispositifs pour progressivement pouvoir être en capacité de vivre tout seul quand l'aide sociale à l'enfance ne sera plus là.
Vous en appelez en fin de communiqué de presse. Bien sûr, vous assumez pleinement toutes les responsabilités qui sont les vôtres, mais en continuant cependant de demander à l'État un soutien financier adapté aux enjeux du moment. Est-ce le cas à l'heure actuelle ?
Actuellement, l'État nous rembourse 5 jours pour faire l'évaluation du jeune. Quand un jeune arrive et qu'il se dit mineur, nous le mettons à l'abri. nous le mettons à l'abri. Ça ne veut pas dire que le travailleur social est prêt demain pour faire l'évaluation, parce qu'il y a tout un travail en cours. On compte à peu près 4 semaines, 5 semaines pour faire cette évaluation. 5 jours sont pris en charge. Voilà. Ensuite, nous avons notre président Jean-Luc Chenu a pu négocier dans le cadre de la contractualisation pour avoir un peu un dispositif un peu plus favorable. Mais dans la mesure où ces jeunes ensuite rentrent dans le dispositif de la protection de l'enfance, ce sont des jeunes que nous protégeons.
Madame Verbrion, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes vice-présidente en charge de la protection de l'enfance, mais vous êtes également ancienne directrice du Centre aîné d'information pour le développement et la solidarité entre les peuples. Sur cette question-là, on est complètement au croisement de tout ça. On peut revenir un petit peu sur votre engagement, comment il s'est porté jusqu'à aujourd'hui à devenir sur ce poste-là, sur cette question-là qui a l'air de vous concerner tout particulièrement ?
Effectivement, c'est un sujet, d'abord la protection de l'enfance, c'est un sujet qui me passionne, mais le volet de ces jeunes mineurs non accompagnés, effectivement, mon parcours professionnel ne me laisse pas indifférente par rapport à cette approche-là. Et je continue à dire que si aujourd'hui nous avons autant de mineurs non accompagnés arrivés en Europe, c'est un problème de développement. Il y a vraiment un réel problème à la base. S'ils quittent leur pays, c'est pas parce qu'ils ont juste envie de venir jouer au foot. C'est que, franchement, il y a un problème de développement et qui n'est pas réglé, qu'on n'est pas prêt de régler. Il y a aussi, je suis persuadée, le problème du réchauffement climatique. Ce sont aussi des réfugiés climatiques pour certains. Ça va de pair, hein, la pauvreté. Donc il faut voir ça globalement et pas jeter la pierre à ces jeunes, parce que c'est eux qu'on voit. Mais le problème, à mon avis, il est bien plus global sur le fond. Et je suis très, très fière et très heureuse que dans notre département, nous ayons pu mettre en place aussi, toujours dans cette dynamique qui m'inspire, des familles solidaires, un projet de famille solidaire ou de parrains pour accompagner ces jeunes, des personnes, des citoyens qui s'engagent sur un temps donné ou sur un temps plus long en fonction de ce qu'ils sont capables de faire pour accueillir un jeune le week-end, des vacances, etc. et qui leur permettent d'exprimer leur solidarité internationale localement. Et moi, j'ai toujours dit, on n'est pas obligé de partir au bout du monde pour être solidaire. On peut aussi être solidaire ici. Et je suis vraiment très, très fière de cette expression citoyenne des Brétiliens que nous allons d'ailleurs, avec le président, recevoir début juillet. Et je trouve que c'est la plus belle expression de la solidarité internationale.
Dans la vie, il n'y a pas de frappe avec des fatalités.